VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Bamako, 18h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. En Côte d'Ivoire, suspension du procès de Simone Gbagbo, l'ex-première dame ivoirienne, jusqu'au 3 novembre. Suite à son refus ce mardi de comparaître au tribunal d'Abidjan où elle est jugée pour crime contre l'humanité. Madame Gbagbo dit avoir agi sur le conseil de ses avocats qui avaient annoncé la veille qu'ils suspendaient eux aussi leur participation en raison de l'impossibilité de faire témoigner certaines personnalités. Plus de détails sur la décision de la défense de l'ex-première dame ivoirienne avec Arzuma Compaoré.
La première audience consacrée aux témoins de la défense devait commencer hier. Les avocats de Mme Gbagbo souhaitaient entendre Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale et ancien chef rebelle, Jeannot Kouadio Ahoussou, ancien premier ministre, Charles Kofi Dibi, un ancien ministre, et le général Philippe Mangou, l'ex-patron de l'armée, entre autres. Cette requête avait été rejetée après 2 heures de délibération. Le juge Boaki Kouadio a déclaré que la Cour ne peut citer ces personnes à comparaître, car aucun texte ne l'autorise. Dohora Blédé, un des avocats de Mme Gbagbo, a alors annoncé la suspension de leur participation, se donnant un délai de 4 jours. La Cour d'assises d'Abidjan juge Mme Gbagbo depuis le 31 mai. Elle est accusée de crime contre l'humanité. Elle purge déjà une première peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État.
Au Mali, le parti au pouvoir, le Rassemblement pour le Mali, RPM, s'est donné un nouveau chef, Boukari Traoré, en vue des élections municipales de novembre. Premier scrutin dans le pays depuis l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2013. Et toujours au Mali, 3 personnes ont trouvé la mort dans l'attaque d'un important poste régional de péage dans le village de Sanan-Koroba. Ses habitants vivent dans l'inquiétude en raison de plusieurs attaques armées à armées, nous dit notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Situé à 35 km de Bamako, Sanan-Koroba est connu grâce à son village SOS d'enfants. Dans ce village se trouve un poste de péage dont la recette annuelle est de quelque 14 milliards de francs CFA selon les chiffres de l'autorité routière. Sanan-Koroba est sur la route de Sikasso, située au sud du pays. C'est le poste de péage de ce village qui a été attaqué ce lundi aux environs de 19h. Le bilan est de 3 morts, dont 2 agents de l'autorité routière, 1 planton et 4 blessés. Le seul gendarme qui était sur les lieux a fui selon les habitants. Le poste de péage de Sanan-Koroba est bien fréquenté, car tous les camions en provenance des ports d'Abidjan, Lomé et Ghana passent par là. Ce qui fait que sa recette journalière est très élevée, d'après une source de l'autorité routière. À Sanan-Koroba, cette attaque n'est point une surprise, car il y a 2 semaines, les mêmes malfrats avaient attaqué la pharmacie officine de Sanan-Koroba. Pour le moment, aucun habitant interrogé n'a pu nous dire avec certitude s'il s'agit des bandits armés ou une attaque terroriste. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Niger, le gouvernement a supprimé les postes militaires installés dans les zones d'accueil des réfugiés maliens. Ils seront remplacés par des patrouilles mobiles. Nani Talani.
Selon un haut responsable du ministère nigérien de l'Intérieur, le gouvernement opte désormais pour des patrouilles militaires à la place des postes statiques dans 2 zones d'accueil des réfugiés maliens. Officiellement, il ne s'agit pas d'un retrait, mais de changement de mode opératoire. Cette nouvelle mesure concerne Tazalit et Inticane, 2 zones de la région de Tawa qui accueillent 22 000 sur les 60 000 réfugiés maliens au Niger. Ces 2 localités, d'après un travailleur humanitaire, sont des zones d'accueil où les réfugiés éparpillés sur plusieurs kilomètres viennent périodiquement pour recevoir leur ration alimentaire. Jeudi dernier, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, s'est rendu à Tazalit pour évaluer le dispositif sécuritaire. Il a notamment souligné des défaillances qui expliqueraient la célérité avec laquelle l'attaque du 7 octobre a été exécutée. 22 soldats nigériens ont été tués, probablement par des djihadistes.
Au Nigeria voisin, le groupe rebelle des Vengeurs du Delta du Niger revendique la destruction d'un oléoduc de la compagnie américaine Chevron dans le sud du pays. L'attaque intervient à quelques jours des pourparlers prévus avec des membres du gouvernement.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Cameroun, une enquête judiciaire a été ouverte sur la catastrophe ferroviaire qui a fait 79 morts et 550 blessés lorsqu'un train assurant la liaison Yaoundé-Douala a déraillé vendredi dernier près de la ville d'Ezeka. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le parquet de la Cour d'appel de la région du centre. L'enquête est conduite par le directeur de la police judiciaire et le chef du service central de recherche judiciaire de la gendarmerie, a précisé le parquet de la Cour d'appel du centre, dont dépend ECK. Les investigations seront placées sous la direction des procureurs près les tribunaux d'ECK et de grande instance de Mfundia à Yaoundé. Le procureur général près de la Cour d'appel du centre en assurant le contrôle. Le parquet invite toute personne intéressée par l'enquête à se rapprocher de ses responsables chargés de l'enquête. RCA, la France a dénoncé aujourd'hui les provocations et attaques contre la MINUSCA, la force de maintien de la paix de l'ONU en Centrafrique, au lendemain de violences qui ont fait 4 morts parmi les civils à Bangui. Paris met en garde tous ceux qui chercheraient à faire obstacle à la réconciliation des Centrafricains et souligne que les auteurs des violences devront rendre compte de leurs actes, a déclaré le porte-parole du Quai d'Orsay, Romain Nadal. 4 civils ont été tués et 14 blessés dans des violences lundi à Bangui, où un collectif de la société civile centrafricaine avait appelé à une journée ville morte pour demander le retrait de la force de l'ONU, accusée de passivité face au groupe armé. Des attaques de groupes armés dans plusieurs localités de province ont fait plusieurs dizaines de morts ces dernières semaines en RCA. Les islamistes somaliens Chebab ont mené ce mardi une double attaque meurtrière en Somalie contre une position de la force de l'Union africaine et à Mandera au Kenya, où il y a eu au moins 12 morts. Le point avec Nani Talani.
L'attaque du Kenya a eu lieu tôt ce matin dans une ville frontalière de la Somalie. Selon l'administrateur en charge de la sécurité dans la région du nord-est kényan, Mohamed Saleh, ce mardi matin, une bombe artisanale a explosé dans l'hôtel Bicharo à Mandera. Au moins 12 personnes ont été tuées. Tous les occupants de l'hôtel ont été évacués et 6 ont été sortis vivants des décombres. En Somalie, l'attaque au camion piégé a visé une position de la force de l'Union africaine à Beldouane, dans le centre du pays. Un kamikaze a frappé le camp avec un véhicule rempli d'explosifs. Les Chebab ont revendiqué les deux attaques via le site de leur station Radio Andalus, affirmant avoir tué 15 personnes et ajoutant que l'attaque du Kenya s'inscrit dans une volonté de chasser les infidèles dans le nord-est du pays à majorité musulmane.
Et toujours concernant le Kenya, le président kenyan Uhuru Kenyatta a commué lundi les peines de 2747 condamnés à mort qui passeront désormais le reste de leur vie en prison. Amnesty International a salué l'initiative et a exhorté le Kenya à abolir la peine de mort. En Afrique du Sud, le principal parti sud-africain d'opposition rejette la décision du gouvernement de retirer le pays de la Cour pénale internationale, la CPI. L'Alliance démocratique a saisi aujourd'hui la Cour constitutionnelle sud-africaine pour bloquer cette initiative, estimant que la lettre adressée à l'ONU annonçant le retrait de l'Afrique du Sud viole la Constitution nationale. Actualité hors d'Afrique, au Pakistan, 61 personnes ont été tuées et 118 blessées par 3 kamikazes lourdement armés qui ont fait irruption pendant la nuit dans une académie de police à Quetta. Les détails avec Nathalie Barge.
Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières cette année, après celle de Lahore en mars qui avait fait 75 morts et celle contre l'hôpital de Quetta en août dans laquelle 73 personnes ont péri. La plupart des victimes sont des jeunes recrues de l'école de police. Certaines ont été blessées en sautant par les fenêtres pour s'enfuir. Après l'intervention des forces de sécurité, deux kamikazes ont actionné leur ceinture d'explosifs. Deux groupes ont revendiqué l'attaque, les talibans pakistanais et l'organisation État islamique. Les premiers disent qu'elles visaient à venger la mort de leur moudjahidine dans le Punjab, et les seconds affirment qu'elle a été menée par 3 kamikazes de l'État islamique. L'armée pakistanaise l'a attribuée à Lashkar-e-Jhangvi, un groupe allié des talibans.
Et pour terminer, en France, deuxième jour de l'évacuation de la jungle de Calais, où étaient concentrés dans des conditions insalubres des milliers d'immigrants souhaitant se rendre en Angleterre. Les départs sont moins nombreux qu'hier, où plus de 2300 d'entre eux ont été relocalisés sans incident dans les centres d'accueil répartis sur tout le territoire français. L'évacuation de cet immense bidonville accueillant 6 à 8 000 personnes devrait être finalisée jeudi. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.